Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Je suis très contente de vous retrouver dans Bien fait pour vous. Après ce week-end, c'est votre émission Feel Good, mieux vivre comme chaque jour jusqu'à midi. Julia, on va parler de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, on va faire dans le pratique ce matin et dans le préventif, dans la mesure du possible, puisqu'on va s'intéresser aux accidents domestiques. Comment les éviter ? Eh bien, ce sera notre question aujourd'hui. Une chute, un début d'incendie, une brûlure, avec un peu de prévention, on peut souvent éviter le pire. On va faire le point avec nos invités. Nous recevrons Juliette Bloch. Elle est directrice des alertes et des vigilances sanitaires à l'ANSES. Je ne sais pas si on dit comme ça.
L'ANSES,
carrément. Ainsi que le docteur Franck Mignot. Il est médecin généraliste à Paris. Alors, quoi d'autre au programme, Mélanie ?
À 11h45, il y aura le quart d'heure des bienfaiteurs, les conseils et les bons plans de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nous sommes en période de rentrée et c'est souvent aussi la période des déménagements. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'étudiants. Notamment, savez-vous qu'il existe désormais des astuces pour déménager écolo ? On verra ça avec Perrine Brami. Et puis, dans l'équipe, ce lundi, on accueillera aussi le coach Hakim Benzakar. Il va nous expliquer pourquoi il est intéressant et pas forcément hors de prix de faire appel à un coach perso pour se remettre en forme. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bien fait pour vous, c'est maintenant.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et aujourd'hui, on va donc vous aider à éviter et soigner éventuellement les principaux accidents domestiques. Chaque année en France, 4,5 millions de personnes sont victimes d'un accident dans leur vie courante. Ils se déroulent pour la plupart à la maison. Et je suis sûre que ça a inspiré notre cher Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Bonjour Julia. Bonjour Mélanie. Bonjour. Aujourd'hui, effectivement, on va parler des accidents domestiques. Waouh, quel sujet fabuleux pour un humoriste. On va parler des chutes, des brûlures, des coupures, des pincements, des noyades, des intoxications, des morsures, des piqûres, des étouffements, des électrocutions. Surtout que j'ai perdu deux de mes plus grands idoles comme ça. On pense bien sûr à Claude François, accident domestique dans sa baignoire, ou encore Émile Zola, on le sait moins, mais Émile Zola a été intoxiqué dans son lit par sa cheminée. Donc j'ai décidé de prendre les choses à bras-le-corps et je vais vous aider à résoudre tous ces problèmes, en tout cas anticiper. Je suis allé sur le net et on voit des choses fabuleuses sur internet. J'ai tapé forum accident domestique. Quelles sont les questions que se posent les Français? J'en ai trouvé des très drôles. Par exemple, Catherine qui nous dit: est-ce que si je bois de l'essence, je peux démarrer? Voilà, merci Catherine. Puis-je utiliser de l'eau de Javel pour laver les péchés de mon voisin? Alors ça, je ne sais pas qui a mis ça. Ou encore, si je tombe tout doucement d'un escabeau, est-ce qu'on peut dire que j'ai chuchuté? Voilà. Merci Thibaut. Bref, on trouve des choses dingues sur internet, beaucoup de questions mais très peu de réponses. Alors plutôt que de vous donner des conseils, puisque c'est le but de cette émission tout à l'heure, j'ai décidé de vous parler des pires accidents domestiques, en tout cas des pires mort de l'histoire. Oh. Je m'en excuse, c'est pas un sujet drôle, mais pourtant, alors je passe Charles VIII, un petit cours d'histoire. Charles VIII, qui était un grand roi de France, qu'on a très peu connu, parce qu'en fait, il est allé jouer au jeu de paume, l'histoire est vraie. Ouais. La balle est partie trop loin, il a dit « bougez pas les gars, je vais la chercher ». Il a pris une poutre dans le visage, il est mort directement.
Oh, mince.
Belle histoire de France. Il y a Félix Faure aussi, qui est un des rares présidents morts au sein de l'Élysée, qui était en train de fricoter avec sa maîtresse. Je ne sais pas si c'est un accident domestique ou pas, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, voici le top 3 des morts les plus ridicules de l'histoire.
Numéro 3.
Numéro 3, je vous emmène à Philipsburg, un jeune homme qui s'est étouffé alors qu'une personne lui faisait un striptease dessus. Cette histoire est vraie. Il a voulu, sans les mains, dégrafer un soutien-gorge. Il l'a fait avec la bouche, il a avalé la baleine et il est malheureusement décédé.
Numéro 2.
Numéro 2, un révérend brésilien. Ça s'est passé donc pendant une grande fête et il voulait battre le record le plus long vol en fait avec des ballons accrochés, des ballons de baudruche, vous savez. Peut-être que vous avez vu le film Là-haut, donc c'est exactement la même chose. Il avait harnaché 1000 ballons gonflés à l'hélium. Il s'était lancé, il est parti, il est monté. Et malheureusement, ils l'ont retrouvé 3 mois après, à quelques centaines de mètres de l'endroit où il avait décollé. Effectivement, ça c'était terminé pour lui.
Numéro 1.
Et je termine avec, je suis désolé, la pire des morts. Est-ce que c'est un accident domestique ou pas? C'est un notaire de 39 ans qui s'appelle Gary Hall, qui voulait prouver à ses élèves, il était en cours, qu'il venait d'avoir une invention extraordinaire. Il avait inventé plus que le double vitrage, la vitre incassable.
Oh non.
Et donc, du 24e étage, il a dit, par exemple, de tout mon poids, je peux, de toutes mes forces, m'appuyer comme ça, sur cette baie vitrée, vous verrez que c'est incassable. Il s'est lancé, je vous laisse imaginer la suite. Voilà les top 3. Autant vous dire que parfois, On ne s'en rend pas compte, mais la vie est dangereuse. On est là pour vous donner les meilleurs conseils aujourd'hui.
Oh là là, merci Clément Lanoux. Effectivement, on est tout angoissés là. On va se tourner maintenant vers nos invités, nos vrais spécialistes cette fois. Je vous les présente tout de suite. Juliette Bloch, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes directrice des alertes et des vigilances sanitaires à l'ANSES. Avec nous également le docteur Franck Mignot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin généraliste à Paris. Juliette, je vais commencer avec vous. Quand on parle des accidents domestiques, ça regroupe quoi précisément? Parce que c'est pas...
En ballon, en baudruche,
ouais,
je ne sais pas
non.
Sûr que ce soit
qu'on... La fellation qui tourne mal de Félix Faure, est-ce que c'est un accident domestique?
Je ne me prononcerai pas sur ce cas-là. Non, en domestique, on parle surtout par opposition aux accidents professionnels. Donc domestique, c'est dans la sphère personnelle. Alors évidemment, dans la maison, mais ça peut être dans le jardin. Et si on a ramassé des champignons et qu'on s'intoxique chez soi, ben voilà, c'est un accident domestique.
D'accord, c'est les accidents qu'on appelle de la vie courante, en
la
fait.
La vie courante.
C'est ça.
Alors après, il y a tout ce qui est les accidents de la route, aussi, qui est une autre catégorie.
Très bien.
Moins dans les accidents domestiques.
Docteur Mignot, vous avez été urgentiste un certain nombre d'années. Les accidents de la vie courante, comme les brûlures, les intoxications, ça fait partie de votre quotidien. Vous voyez quoi, à l'époque, le plus souvent comme accident de la vie courante, donc?
Des chutes de bébés, c'était tous les jours.
Mais des chutes de quoi? De la table?
De la table allongée. Ouais. De la table allongée, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement courant. On voit des mères dans un état, mais elles sont catastrophées, les pauvres, et Dieu merci, ça se termine la plupart du temps bien. Mais on voit aussi des plaies, des gens qui veulent faire du bricolage avec des disqueuses, des tondeuses à gazon, très dangereux en printemps.
Du chaud, de la brûlure aussi, ça y en a pas mal, j'imagine. Ouais, dans les cuisines, etc. Alors, est-ce qu'on sait justement, Juliette, combien d'accidents domestiques surviennent chaque année en France? Si, par exemple, c'est en augmentation, et est-ce que, notamment par rapport à d'autres types d'accidents, comme ceux de la route?
Alors, les accidents dont je vais vous parler, c'est ceux qui donnent, lieu à un appel à un centre antipoison. Il n'y a pas d'augmentation, plutôt une tendance à la baisse. Mmh. Et donc, il y en a environ 170 000 par an qui donnent lieu à un appel au centre antipoison. Mmh. Donc, la moitié environ sont symptomatiques. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui appellent parce qu'ils ont avalé ou ils se sont projetés quelque chose dans l'œil et ils veulent savoir ce qu'il faut faire.
Mais dites-moi, Juliette, ça concerne beaucoup les enfants ou pas, les accidents domestiques?
Oui, alors il y a 38% des cas qui concernent les enfants de moins de 6 ans.
Ah oui, voilà. Les jeunes enfants, quoi.
Oui, tout à fait.
Je crois quand même, vous avez dit que ce n'était pas en augmentation si on regarde d'année en année, mais néanmoins, je crois que pendant la pandémie de Covid et surtout les confinements, là, il y a eu quand même une petite augmentation.
Alors,
et de quel ordre, justement?
Oui, pendant la pandémie de Covid, ce qu'on a surtout fait, c'est une alerte sur des intoxications parfaitement évitables et qui étaient vraiment liées au Covid. En particulier, les gens surtout dans le premier confinement, on ne savait pas grand-chose, les gens avaient peur et on comprenait. Donc, ils se sont mis à nettoyer et désinfecter chez eux avec des produits inappropriés.
Tout et n'importe quoi,
voilà.
Et n'importe
alors,
comment.
Par exemple, l'utilisation de Javel avec un produit détartrant sur la moquette.
Ah oui.
Alors ça fait des dégagements de chlore, c'est pas bon. Les gens se sont aussi... laver le corps avec des produits inappropriés, laver parfois les pattes des animaux aussi avec de l'eau de Javel.
Ah voilà, oui, forcément, donc il y a eu des brûlures.
Des brûlures, des irritations. Bon, généralement, c'était bénin, mais on a quand même lancé l'alerte.
Alors, docteur Mignot, le gel hydroalcoolique, par exemple, dont on s'est énormément servi pendant les différents confinements et autres festivités, si on se rend compte que son enfant en a mis, par exemple, dans la bouche ou dans les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, c'est très dangereux le gel hydroalcoolique. C'est pas du tout comme de l'alcool à 70, des choses très simples, pas du tout. Il faut faire cracher immédiatement, éventuellement rincer la bouche avec un petit peu d'eau en s'assurant qu'il n'avale pas. Et demander s'il a avalé, s'il a dégluti, vérifier ça. Il faut se méfier parce que ça a l'air tout bête, mais les enfants peuvent tomber dans le coma, ce genre de choses. Ça peut aller assez vite. Et moi, je conseille de prendre conseil au 15. Qui vous donnera...
Les premiers gestes.
Oui.
Dans les yeux, c'est pareil. S'il y a une projection dans l'œil, on rince à eau forte, hein, c'est
absolument,
ça
ouais. Absolument. Et ça, on va dire que c'est le plus gros risque. C'est le plus gros risque parce que dedans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'alcool, de l'oxygéné, enfin des choses qui ne sont pas banales. Et il y a très souvent des plaies de cornée avec des gens qui peuvent rester aveugles d'un œil. Donc ça, c'est vraiment... C'est aller aux urgences.
Très vite.
Très vite. Et même si vous n'avez pas mal, parce que initialement, on a mal, et quelques minutes après, la douleur disparaît complètement. Et ça, c'est très piégeux.
Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave.
Absolument.
À consulter, effectivement. Merci. On reste ensemble. Bien fait pour vous. Se poursuit. On essaye de se prémunir des accidents domestiques aujourd'hui. Et oui, on peut tous être concernés. Mais heureusement, certains sont évitables. On vous explique la marche à suivre dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De nos jours, il y a des accidents d'amour. De nos jours, il y a des passions qui tournent de cou.
Alors, on ne va pas détailler les accidents de l'amour comme France Gall dans Bien fait pour vous. Vous êtes de retour dans votre émission Feel Good, mieux vivre. On tente d'éviter les accidents, non pas d'amour, mais domestiques ce matin, en compagnie de Juliette Bloch, directrice des alertes et des vigilances sanitaires à l'ANSES, et du docteur Franck Mignot, médecin généraliste à Paris. Alors Juliette, on va passer en revue la plupart des accidents domestiques ce matin, et puis bien sûr les bons réflexes à avoir si ça nous arrive. Mais justement, vous nous disiez avant donc, que ces accidents domestiques, finalement, on les recense parce qu'il y a les appels au centre anti-poison. Mais vous disiez aussi tout à l'heure que les gens appellent sans forcément avoir des symptômes à chaque fois. Est-ce que vous voulez dire par là que les Français ont tendance peut-être à trop s'inquiéter, pas quand il faut peut-être ?
Alors pas du tout. Il se trouve qu'ils appellent parfois avant les symptômes, mais c'est très bien. Et les centres antipoison ne s'en plaignent pas du tout, parce qu'il vaut mieux appeler et être réassuré, ou appeler et avoir une bonne conduite à tenir, que d'attendre que les signes arrivent et éventuellement ça va être trop tard. Donc non, au contraire, c'est très bien.
Alors Franck, un des accidents fréquents de la vie courante, ce sont les brûlures, je peux en témoigner. J'étais moi-même brûlée au troisième degré quand j'étais gamine.
Aïe.
Oui, je m'en souviens encore. Mais il y a différentes façons, évidemment, de se brûler dans une maison ou un appartement. D'ailleurs, comment ça arrive ?
Vous, c'était du lait chaud, hein, c'est ça ?
Moi, c'était du lait chaud sur un petit pyjama en acrylique, sur une table qui se rabattait contre le mur.
Ouais. C'est le très grand classique, le café qu'on renverse sur les cuisses. Ouais. Ça peut être aussi les inhalateurs, vous savez, quand on a un rhume, vous inhalez des choses avec de l'eucalyptus et les petits enfants tirent dessus, ça glisse et ça tombe sur les cuisses.
Oh là.
Très dangereux ça en hiver. Hein. Ça peut être aussi la friteuse d'huile, ça peut être aussi la casserole avec justement le manche.
Qui dépasse.
Exactement, le petit enfant veut le voir,
évidemment,
l'attraper.
On pousse toutes les queues de casserole et de poêle dans l'autre sens.
Sinon, on n'en utilise pas comme vous.
Ouais, bah, voilà, c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais cuisiné de ma vie. Mais c'est vrai que ce sont des gestes préventifs très importants, j'imagine.
Absolument, absolument. Et puis, un truc qui est idiot, c'est en cuisine, c'est quand vous avez un torchon mouillé, ne l'utilisez jamais, jamais, jamais pour prendre une casserole chaude. Parce que l'eau va conduire la température.
Ah.
Et là, ça, c'est la certitude d'une brûlure.
D'accord. Ah, alors justement, c'est quoi la conduite à tenir ? Pas de torchon humide, vous l'avez dit, pour ne pas faire conducteur. Mais il y a certaines personnes qui vont se ruer sur les glaçons, par exemple. Ça aussi, je crois qu'il ne faut pas le faire.
Très mauvaise idée, parce que la glace, ça brûle aussi. Et donc, il n'est pas nécessaire d'ajouter une brûlure à une autre. Et on recommande de faire couler de l'eau 15 à 25 degrés. Vous voyez,
c'est quoi ? C'est tiède ?
Frais. Pendant au moins 30 minutes.
Et oui, parce qu'on ne fait pas assez longtemps, en fait, hein, c'est
oui,
ça.
Ça ne sert à rien. 3-4 minutes, ça ne sert à rien.
Et de l'eau trop froide, on a tendance à instinctivement à mettre de l'eau froide sur une brûlure,
oui.
C'est pas bien ça ?
Oui, absolument, parce qu'on se dit qu'un excès va en cacher un autre. Non, pas du tout.
Laisser longtemps la plaie qui a été brûlée sous l'eau, ça c'est très important.
Absolument.
Et pas 5 minutes.
Absolument, parce que le froid peut nous donner une fausse impression de calmer la douleur, mais le trop froid, c'est une mauvaise idée.
Ah ben ça, je ne savais pas. Bah alors, Juliette, il y a aussi des intoxications au monoxyde de carbone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Et je crois que le problème, c'est surtout qu'on ne s'en rend pas compte.
Tout à fait. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est totalement inodore et voilà, qui passe totalement inaperçu et qui se dégage en cas de combustion incomplète, quel que soit le combustible. Et le problème, c'est qu'il se fixe sur l'hémoglobine de notre sang et il empêche l'oxygène de s'y fixer. Donc, c'est une asphyxie lente. Et qu'on ne ressent pas immédiatement. Puis après, les premiers signes, ça va être des maux de tête, on peut devenir un peu rouge, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis, on peut se retrouver dans le coma. Et c'est quand même la première cause de décès par intoxication accidentelle à la maison.
Et la période sensible ne va pas tarder à arriver, parce que là, on va rallumer le chauffage, justement,
voilà.
Et c'est là que ça survient.
Tout à fait.
Comment on évite ça à la maison ?
C'est vraiment une intoxication saisonnière. Eh bien, il faut faire ramoner ces conduites cheminées par un professionnel et faire vérifier leur étanchéité. Et puis, faire intervenir un professionnel qualifié, plombier chauffagiste ou entreprise de ramonage, pour contrôler et entretenir les installations de chauffage, les chaudières, les poêles, etc.
Moi, j'ai mis un détecteur à la maison de monoxyde aussi.
Bien sûr, on peut aussi s'équiper d'un détecteur.
C'est le même
monoxyde.
Que le détecteur de fumée ?
Non, un autre, j'en ai deux du coup. Il y a les détecteurs de fumée et
ça,
le détecteur de monoxyde.
Le détecteur de fumée.
Celui-ci, oui, mais le monoxyde, c'est pas obligatoire, je pense, le détecteur.
Dommage d'ailleurs, parce que ça éviterait beaucoup d'accidents. Je vais l'installer.
Je pense que c'est en discussion, mais ça ne fait pas encore partie de la réglementation. Et puis après, il faut aérer régulièrement son logement. Même quand il fait froid. Et puis, ne jamais mettre de groupe électrogène. dans un lieu fermé. Jamais.
Mmh. On le répète, mais il y a des accidents
voilà,
chaque année.
Il y a des accidents comme ça.
Bon, Franck, il y a un tas d'accidents qui ont lieu également dans la salle de bain. Alors évidemment, Clément Lanoux, tout à l'heure, nous rappelait la mort, effectivement, de totalement bête, hein, de Claude François. On y pense, ne pas toucher évidemment d'électricité quand on a les pieds dans l'eau. Mais il y a aussi la noyade dans la baignoire. Est-ce qu'il y a des règles à respecter que vous pourriez nous rappeler quand on fait prendre le bain à son enfant ?
Il faut être très très prudent et les petits enfants, ça bouge, ça gigote, c'est complètement imprévisible et il faut avoir l'œil dessus, c'est-à-dire on ne se retourne pas, on a la main sur l'enfant en permanence. Il faut prévoir les choses dont on a besoin avant le bain parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre l'enfant dans le bain et de se dire « Ah, j'ai oublié quelque chose ».
Il suffit de quelques secondes, hein, aller chercher des couches, c'est trop
terrible,
déjà. On ne quitte pas la pièce.
On ne quitte pas la pièce et par exemple au cabinet, quand j'ai un petit qui est sur la table, je l'ai toujours la main.
Moi, si j'oubliais quelque chose, je le prenais tout nu sous le bras et je partais à faire.
Exactement, c'est le truc à faire, ne jamais le quitter des yeux.
Au mieux qu'il attrape froid, effectivement, c'est pas grave. Juliette, vous nous avez parlé en préparant cette émission des répulsifs à insectes, notamment sous forme de bracelets. Oui. En quoi ça cause des accidents domestiques, ces trucs-là ?
Alors, ces petits bracelets, c'est des bracelets qui contiennent une plaquette ou une capsule qui va libérer un mélange odorant, généralement à base d'huile essentielle. Et en fait, notre attention est attirée par un cas d'un enfant qui avait fait la sieste. Et pendant la sieste, en fait, il avait mis sa joue contre le bracelet. Et du coup, ça a fait une rougeur. Puis après, une brûlure du deuxième degré.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, on a recensé les cas. Bon, ils ne sont pas très nombreux. Mais voilà, on a quand même recommandé de ne pas utiliser ces objets chez les enfants.
D'autant qu'il y a encore des moustiques et donc des gens qui utilisent ces choses-là cette saison.
Tout à fait.
Alors Franck, on a parlé des enfants, mais il y a aussi les personnes âgées qui sont victimes des accidents domestiques, en particulier les chutes. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines de milliers chaque année en France. Vous avez, vous, beaucoup de patients âgés qui viennent vous voir ou qui vous appellent au cabinet pour cela ?
Oui, absolument. Et même dans la baignoire, donc eux ne vont pas se noyer, mais vont déraper dans la baignoire. C'est très, très piégeux, ça aussi. Et puis, la nuit, lorsqu'on se lève pour aller aux toilettes, on a la tête qui tourne. Et après être allé aux toilettes, on peut aussi avoir la tête qui tourne. Ça, c'est complètement physiologique, c'est connu.
C'est un malaise vagal, hein, c'est ça.
Absolument. Et c'est piégeux. Puis, j'ai un petit message à passer. Prenez de la vitamine D. Messieurs comme dames, c'est très très important parce que maintenant, c'est pas très important, mais dans quelques années, vous allez manquer de calcium dans vos os, vous aurez des os fragiles. Mmh. Et puis, c'est ce qui va faire la différence entre col du fémur, hors notre col du fémur.
Ah, okay, à ce point-là. Donc, vitamine D, surtout, allez-y, n'hésitez pas à vous complémenter, c'est important, effectivement. Franck, on sait aussi qu'un Français sur deux a un animal de compagnie. Et là aussi, il y a les morsures, les griffures, et c'est très très fréquent en consultation parmi les accidents domestiques.
Hein. Absolument, les blessures liées par morsures animales ou même morsures humaines, hein, les gens se mordent entre eux, ça arrive, je l'ai vu.
D'accord.
Et donc, c'est dangereux. La morsure humaine est assez dangereuse parce qu'elle s'infecte tout le temps.
Bon, par pitié, vous ne mordez pas les uns les autres.
Non, c'est quand même.
C'est plus de l'amour, c'est de la rage.
Absolument, non, mais les chiens aussi, c'est dangereux. Il faut d'abord nettoyer à grande eau, important, désinfecter. Les chats, c'est redoutable, ils ont des toutes petites dents pointues et donc ils vont emmener le germe très profondément. Mmh. Alors initialement, on est comme une petite piqûre d'aiguille, c'est pas bien méchant. Et secondairement, ça se met à gonfler. En fait, le message, c'est sur le moment, vous n'avez pas trop de soucis, mais c'est surveiller.
Il faut aller voir un médecin si on s'est fait griffer fortement ou si on a été mordu ?
Je dirais sur le moment, pas nécessairement. En fait, c'est l'évolution qui va nous le dire. C'est en 12-24 heures, si ça se met à beaucoup gonfler, à faire très très mal, à suppurer, là, il faut y aller. Mais a priori, laver, désinfecter, mettre un pansement sec.
Eh bien, merci à vous deux. On sera de retour avec vous dans quelques minutes. On va s'intéresser et continuer à s'intéresser aux accidents domestiques aujourd'hui. Et surtout, on vous donne nos meilleurs conseils pour les éviter un maximum. Et puis, s'ils arrivent malgré tout, comment réagir dans l'urgence ? On vous dit tout ici. Donc, restez à côté de nous. Hein. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez et merci si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On vous aide dans votre quotidien aujourd'hui pour éviter les accidents domestiques. Il y en a plus de 4,5 millions chaque année en France. On en parle avec Juliette Bloch, directrice des alertes et des vigilances sanitaires à l'ANSES et du docteur Franck Mignot, médecin généraliste à Paris. Alors Juliette, c'est la mode, hein, on le sait, on en parle d'ailleurs dans l'émission souvent ici, du do it yourself, le fameux fait maison.
Mais il y a quand même, quand on fait ça, des recettes qui nécessitent l'utilisation de produits chimiques qui peuvent être toxiques. Et notamment, on a beaucoup parlé de la mode du on dit slime.
Le slime. Slime. Votre fils est trop grand, il n'a pas joué avec ça.
Ouais. C'est quoi le
ça c'est dangereux. Vous l'en fabriquez, mais j'ai jamais essayé. J'ai tout fait.
Le slime, c'est une pâte gluante qui est élastique, à malaxer, que les enfants peuvent malaxer pendant des
avec
heures.
Avec des paillettes de toutes les couleurs.
En français, on dit pâte à proutes.
Ah, pâte à proutes. Ah, ça, je connais. J'en ai même eu, je crois, quand j'étais petite.
Moi aussi, quand j'étais
petite.
Alors, le problème, effectivement, c'est que cette mode a démarré en 2016. Et du coup, plein de tutoriels se sont trouvés sur Internet pour le faire soi-même. Alors, le problème, c'est que c'est faire soi-même, c'est détourner de leur usage des substances.
Par exemple, lesquelles?
Par exemple, des colles, des lessives, des solutions pour les lentilles, pour que la réaction chimique se fasse. Mm-hmm. Et du coup, ça entraîne des réactions allergiques. Importantes, parfois avec des brûlures cutanées.
Parce qu'il y a des substances qui se dégagent aussi de ce
truc-là.
C'est retouché.
En fait, c'est qu'on utilise des substances qui, normalement, ne sont pas faites pour être utilisées avec les mains.
Et manipulées beaucoup.
Même, par exemple, la mousse à raser, c'est une substance à rincer.
Oui.
Alors, ce n'est pas censé être en contact prolongé avec la peau.
Donc, il y a eu des accidents avec cette slime maison.
Il y a eu des accidents et donc, on a fait une recommandation de ne pas faire soi-même son slime. Et de préférer utiliser des coffrets soit de slime, soit des coffrets à préparer, mais qui ont l'estampillage marquage CE et qui sont
réputés
être plus safe. Parce qu'il y a aussi parmi ces produits, en particulier les solutions pour les yeux, ces produits sont reprotoxiques.
Alors, un autre risque du quotidien, que ce soit en mangeant ou alors si un enfant avale un petit objet, l'étouffement, ça reste quand même un accident fréquent. On craint ça tous les parents, effectivement. Qu'est-ce qu'on doit faire donc si le petit avale, je sais pas, une bille ou quelque chose? C'est quoi la réaction immédiate?
C'est de la faire expulser. Et pour ça, la meilleure des solutions, c'est de compresser le thorax. Ça s'appelle la manœuvre d'Emlich. On le prend, on le ceinture et puis on donne on serre un grand coup très vivement pour qu'il y ait une grande quantité d'air qui sorte.
On le met dos à nous, on appuie sous le sternum.
Absolument. Dans certains cas, s'il est tout petit, on peut le prendre par les pieds.
Oui,
je
vais vous demander, est-ce qu'on peut le retourner si c'est un bébé? Non, mais c'est vrai, je ne vais pas trop le secouer quand même, attention.
Pas le secouer, oui, mais pourquoi pas? Si la gravité peut faire quelque chose, pourquoi pas?
Et taper dans le dos, ça ne sert à rien?
Pas grand-chose, non, ça ne sert à rien du tout.
D'accord. Bon. Je crois que, Juliette, il y a aussi un petit problème avec les pignons de pain. C'est dangereux, pourquoi?
Alors, il y a eu effectivement une alerte assez importante liée à des pignons de pain non comestibles qui étaient mis sur le marché. Donc en 2009, il y a eu jusqu'à 2800 cas recensés par les centres antipoison. Puis il y a des mesures qui ont été prises par la Chine et ça a beaucoup baissé. Mais il continue à avoir régulièrement des cas. Et cela donne en fait une amertume et un goût métallique dans la bouche qui peut durer jusqu'à 3 semaines.
Alors on n'a pas parlé, on va en parler justement dans un instant, mais de tous les accidents aussi avec les produits ménagers. On y reviendra avec nos deux invités en studio dans un instant. Mais justement contre ça, on a peut-être une solution. Nous avons en ligne tout de suite Olivier Dahan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Clean Sang, qui est donc une marque de produits d'entretien à base de végétaux. Et ce concept, il est né, je crois, justement à la suite d'une histoire personnelle de votre associé. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Exactement. C'était il y a environ 10 ans. Son fils a juste pris une douche chaude. Et elle venait d'être nettoyée quelques heures plus tôt avec de l'anticalcaire. Les projections d'eau chaude sur les murs, ça a donné des vapeurs avec de l'anticalcaire. Il a fait une allergie, sa langue a grossi. Elle était devenue énorme, il n'arrivait plus à respirer. Il n'a pas eu le réflexe de respirer par le nez, donc il y a eu hôpital. Et donc ça nous a fait prendre conscience du danger. Bon, tout va bien, on a eu tous très peur.
Oui, j'imagine. Et donc vos produits à vous, justement, vous dites qu'ils ne sont pas dangereux. Pourquoi? Il y a quoi dedans? Donnez-nous des exemples, parce qu'il faut remplacer les produits chimiques, j'imagine.
Bon, alors, c'est sans danger. Tous nos produits ont des fiches de sécurité qui attestent le sans danger. Donc, d'ailleurs, toutes les fiches sont à l'ANSES. Pour vous donner quelques exemples, on ne va pas vous donner la recette, mais on va vous donner quelques exemples. Par exemple, quand vous faites une plancha, vous avez du mal à laver avec des produits basiques. Par contre, avec du citron et de l'eau chaude ou des glaçons, ça fonctionne. Avec l'écorce d'orange, vous mettez dans l'eau chaude, vous arrivez à enlever les traces de calcaire dans vos verres. Mm-hmm. Donc, il y a en fait des astuces naturelles qui existent. Et nous, ce qu'on a essayé de faire et qu'on a réussi à faire avec Clean Sang, c'est de trouver, avec une technologie rupturiste, des éléments actifs qui sont des éléments naturels. En fait, dans la nature, il y a plein de choses qui existent. Mm-hmm. Donc nous, c'est à base d'algues, de fruits, de légumes, de plantes et d'huile,
oui,
et d'eau pure.
Mm-hmm.
Et avec ça, on arrive à tout nettoyer.
Bon, ben merci beaucoup d'avoir témoigné, Olivier Dahan, d'avoir été avec nous ce matin. Je reviens vers vous, Juliette. Les accidents domestiques n'ont pas tous lieu à l'intérieur. Il peut aussi y avoir des plantes ou même des champignons hein, qui peuvent faire des dégâts sur notre santé.
Tout à fait, tout à fait. Il y a des accidents liés à des confusions de plantes.
Mm-hmm.
Les gens qui vont penser cueillir de la carotte sauvage, bah en fait, ils cueillent de l'énante safranée qui lui ressemble beaucoup,
mm-hmm,
mais qui n'est pas du tout comestible et qui peut donner des troubles graves allant jusqu'à l'arrêt cardiaque.
Et là, il faut appeler le centre anti-poison aussi.
Là, quand ça arrive, il faut peut-être appeler le 15 si on se sent vraiment, vraiment en urgence vitale.
On appelle qui quand d'ailleurs? Est-ce qu'il faut appeler le 15
urgence
systématiquement
vitale,
dans quelles circonstances on appelle le centre anti-poison?
En urgence, si on ressent l'urgence après. Mm. Bon, elle n'est peut-être pas, mais il faut appeler le 15. Pour avoir éventuellement une ambulance qui
mais
vient.
Mais pour les intoxications, mon enfant a bu, je ne sais pas, un peu de Javel.
Là, conseille d'appeler le centre antipoison.
Franck, on entend parfois, c'est le remède de grand-mère, qu'il faut boire du lait en cas d'intoxication. C'est bidon, ça ou pas?
Ah, complètement, c'est même
c'est
dangereux,
bidon.
Ça va aggraver les choses. Parce que le lait, c'est une émulsion, c'est comme de la vinaigrette, et ça va permettre de faire rentrer des produits qui sont solubles dans les graisses. Donc là, c'est la catastrophe.
On parlait des champignons juste avant. Docteur Mignot, vous êtes également botaniste et vous faites de la mycologie. Je crois que vous dites qu'il y a beaucoup trop de fausses idées qui circulent dans la population sur ces choses. Là, quelles sont celles justement de ces fausses idées qui circulent et qui font beaucoup de mal, on va dire?
Oui, alors on entend parfois qu'un champignon cru peut être dangereux, puis une fois cuit, jamais. Non, c'est faux. Toutes ces histoires avec un sou d'or qu'on met dans une main ou qui va s'oxyder dans la poêle, absolument pas. Et puis les pires choses, c'est de manger un champignon si on n'est pas sûr de ce que c'est. Il faut vraiment que la personne en face soit très entraînée et que le champignon soit entier. Un champignon dont on n'a que le haut, c'est dangereux.
Mmh. Alors, dans le jardin, dans notre propre jardin, il y a aussi parfois des dangers. On peut être amené à toucher malencontreusement des orties. C'est vraiment un petit bobo, mais ce n'est pas toujours agréable. Comment on fait pour soulager une piqûre d'ortie? Est-ce que vous avez, Franck, des remèdes à part la patience?
Alors, il y a un truc qui marche bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les orties, c'est des petits poils qui sont quasiment microscopiques, qu'on ne voit pas. Et pour les retirer, si vous frottez, c'est encore pire parce que vous allez crever les glandes à venin. Ce qu'il vous faut, c'est du ruban adhésif. Vous le mettez sur la peau et hop, vous les retirez tous comme ça.
Ah, c'est marrant ça. Ça marche pareil avec les méduses?
Non. Pour les méduses, on l'avait fait ensemble.
Bah oui, la carte bancaire. Vous savez que depuis, je me suis fait piquer. Je me suis souvenue, hein, et ça a bien marché.
Ça vaut, elle s'en est sortie. C'est bon. Donc, un peu de scotch. On va retenir cette astuce, effectivement. Et du vinaigre. C'est génial. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et surtout pour toutes ces astuces, ces conseils. Promis, on fera mieux chez nous à l'avenir pour se protéger ainsi que notre entourage. Merci. Julien, on va changer de sujet.
Et oui, dans très peu de temps, ce sera notre séquence, le quart d'heure des bienfaiteurs. On va commencer avec Perrine Brahmi. Si vous êtes en train de déménager ou que c'est dans vos projets, elle a des conseils pour le faire, mais de façon plus respectueuse pour la planète. Et puis, en cette rentrée, vous avez sûrement, comme tout le monde, en tête de vous remettre au sport. Hein, Mélanie, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, Hakim, l'un de nos coachs sportifs, va vous expliquer les avantages de faire appel à un coach perso. Et c'est pas forcément si cher, vous verrez, que du pratique, du bon pour vous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et à suivre, c'est donc notre tour de table des bienfaiteurs. Hakim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos coachs sportifs dans l'émission et dans quelques minutes, vous allez nous expliquer l'intérêt de prendre un coach sportif perso, c'est ça?
Exactement, je vais vous tout simplement détailler comment choisir son coach ou sa coach et surtout combien ça coûte.
Ah oui, ça nous intéresse.
C'est ce qu'on craint le plus, c'est pour ça qu'on ne fait pas de sport d'ailleurs. Ça me fait bégayer.
Bien évidemment.
Hakim, on vous retrouve dans très peu de temps. Avant vous, c'est Perrine Brahmi qui va se mettre au micro. Bonjour Perrine.
Bonjour Perrine.
Alors l'été, la rentrée, c'est la grande période des déménagements. Je crois que vous avez été justement concernée Perrine et on va voir comment changer d'appartement ou de maison de façon écologique, sans stress et surtout sans gaspillage.
Oui, le déménagement, je sais ce que c'est parce que je viens d'en faire deux à moins d'une semaine d'intervalle.
Alors, ça s'est bien passé ou pas?
C'était pas mal, pas mal de stress justement parce que j'ai réalisé que ce moment charnière, ça pouvait générer du stress, de l'angoisse. l'espace et aussi de la pollution. Et je ne suis pas seule parce qu'on est 3 millions de Français à déménager chaque année. Et vous l'avez dit, la moitié d'entre nous le font entre juin et septembre. Alors moi, je ne sais pas vous, mais pour chaque Français, en général, on déménage 5 fois dans sa vie. Moi, perso, j'ai explosé le quota. Et est-ce que vous savez quelle quantité d'objets on accumule chez nous en moyenne en poids ?
Trop.
Oui, 2,5 tonnes, c'est beaucoup trop. Et
ça, personne,
ça,
ou ça par
prend
ménage
en compte la famille, les meubles, l'électroménager et toutes les affaires perso. Alors vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur la planète quand il s'agit de déménager tout ce bazar en fait.
Alors comment on fait, Perrine, pour limiter les frais et la facture environnementale ?
Le maître mot, c'est d'anticiper, évidemment. On commence plusieurs semaines avant, en consommant progressivement ce qui reste dans les placards de la cuisine ou encore dans le congélateur. Ça permet de gagner de la place et d'avoir moins de choses à déménager ou à jeter. Et ça marche aussi, évidemment, pour la salle de bain. Dans le même temps, en avance, on pense à faire du tri dans les vêtements ou bien dans les bouquins. Si vous n'avez pas utilisé certains objets, par exemple, depuis plus d'un an, on peut considérer peut-être que c'est inutile et que ce n'est pas utile de les déménager. Et puis, si vous n'en voulez plus, peut-être que d'autres en voudront, sans doute. Alors, hop, Vinted, Le Bon Coin, eBay, vent, ça aidera un peu à financer le déménagement. Ce qu'il faut savoir, qu'un déménagement, c'est 4 700 € quand même en moyenne quand c'est on fait appel à des déménageurs. Et puis, si vous préférez donner, on pense à Emmaüs, au site spécialisé comme give.com, G-E-E-V.com.
Ça, c'est pour donner.
Ça, c'est pour donner. Et puis, pourquoi
et attendez,
pas
ils viennent chercher ou pas
Emmaüs vient chercher. Ouais. Et on peut aussi organiser chez soi directement. On invite les proches et puis on leur demande de servir dans la pile des affaires qui restent à donner. Ça aussi, c'est possible.
Vous avez déjà déménagé, Kim, plusieurs fois?
On l'a 14 fois.
Pour les livres, Perrine, c'est quand même très volumineux. C'est les cartons qui pèsent le plus lourd, clairement.
Ça prend beaucoup de place et on a des piles de bouquins à déménager. On peut passer par des sites qui sont dédiés aux livres d'occasion, comme momox.fr ou jiber.com, où il y a la plateforme aussi, la bourselivre.fr. Alors c'est tout simple, vous rentrez le code barre de vos livres et puis le site vous dit en quelques clics combien ils peuvent vous rapporter. On empoche un peu d'argent et puis surtout, on les remet dans le circuit. Ça c'est vachement bien.
Ça marche très bien, je confirme.
Ça évite de se déplacer surtout.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on en fait des livres ? On les envoie après ?
Après, on les envoie, exactement. Et puis l'argent nous est viré sur un compte. Il y a aussi des enseignes qui sont spécialisées. Recyclivre, ça s'appelle. C'est une entreprise sociale et solidaire qui revend vos livres d'occasion à moindre coût. Et 1% du chiffre d'affaires est reversé à des associations environnementales, notamment. Et puis, ils aident aussi des associations culturelles. Donc, c'est tout bénef, ça.
Bon, une fois qu'on a fait le grand tri, on a compris, on sait ce qu'on garde. Encore faut-il emballer tous les objets ? Et ça, c'est horrible.
Ça, c'est le gros stress. Les cartons. Oui. Il y a des alternatives, évidemment. Il y a des housses en plastique, il y a des papiers bulles, tout ça, c'est pas très écolo. Donc, le mieux, c'est d'éviter d'acheter des cartons neufs. C'est une aberration écologique. On prend l'avance, on fait le tour des commerçants du quartier, on va récupérer des cartons d'emballage. Moi, j'ai dévalisé le magasin bio qui était autour de chez moi. Donc, ils sont ravis en plus de s'en débarrasser en général. Donc, on peut s'en passer carrément, complètement, des cartons. Certaines sociétés proposent de louer des bacs de déménagement, que c'est plus économique et c'est plus durable.
Et puis, au moins, on voit ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, puis il n'y a pas besoin de scotch. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi. Et puis ensuite, après le déménagement, bien sûr, ils sont évidemment récupérés par l'entreprise. Mais le plus écolo, c'est de faire d'une pierre deux coups. On utilise tous les contenants qu'il va falloir déménager, qu'on a à dispo chez soi. Par exemple, les caisses, les valises, les sacs et même les tiroirs avec leur contenu qu'on pourra ensuite mettre dans le camion de déménagement. Et pour la vaisselle, on utilise des serviettes de toilette ou des draps pour les marmites. Les assiettes, on les met dans les torchons. Et il y a aussi les chaussettes pour protéger les verres. On n'y pense pas toujours. Et donc, on peut aussi récupérer les prospectus qu'on trouve dans les boîtes aux lettres pour emballer les objets fragiles. Et c'est pas anecdotique, parce que chaque déménagement compte environ 60 cartons en moyenne. Et là encore, j'ai complètement explosé le quota.
Oh là là, ok, pour les cartons, ça c'est très clair. L'autre étape clé, c'est bien sûr le transport. Alors là aussi, il y a des solutions écolo, Perrine.
Ouais, l'alternative aux gros camions très polluants, ce sont les modes de transport peu carbonés, comme le vélo cargo électrique, par exemple. Il y a plusieurs entreprises qui se sont spécialisées sur ce créneau. Alors, ça marche pour les appartements de taille assez modeste et quand on déménage dans la même ville. Il y a l'entreprise, par exemple, qui s'appelle Tout en Vélo, qui propose ce service à Paris, à Rennes, mais aussi à Caen, Rouen ou encore à La Rochelle. Chaque remorque peut transporter jusqu'à 350 kilos, donc c'est quand même pas mal. Ça coûte environ 40 € hors taxe par heure. Et il y a encore plus engagé, une société qui s'appelle Carton Plein, qui propose une solution de déménagement solidaire et durable, c'est-à-dire qu'ils emploient des gens qui sont en réinsertion et ils s'occupent de tout. La manutention, la mise en carton, le transport, ça permet d'économiser, selon cette société, 100 kilos de CO2 sur un déménagement, donc c'est vraiment pas mal du tout. tout. Et puis, ils emploient, je vous le disais, des personnes en situation d'exclusion.
Mais il y a aussi le co-déménagement. J'ai entendu parler de ça. On est obligé d'habiter avec les gens ?
Non. C'est un peu le même principe.
Si Julien et moi, on veut déménager le même jour, c'est
et
ça ?
Ben voilà, ah c'est oui. Comme le
elle aura beaucoup plus de cartons que moi, je pense.
Non, parce que je fais des tris énormes.
Ah oui, c'est vrai. Julia est une grande trieuse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme le covoiturage. En fait, on fait déménagement commun. C'est utile quand on ne peut pas utiliser la solution vélo parce qu'on va loin, par exemple. Donc, c'est un déménagement groupé avec d'autres personnes qui partagent le même véhicule.
Si seulement les cartons de Julia et vous récupérez les miens. Je suis sûre qu'il y a des belles choses dedans.
Bah ouais, c'est
il faut
vrai.
Se concerter. Hein. On donne les adresses et les dates aux déménageurs et il va centraliser un petit peu toutes les demandes. Ça permet d'optimiser la tournée. Ça fait moins de kilomètres aussi pour le camion. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est plus économique aussi et évidemment moins polluant. Et d'ailleurs, la pratique est en train de se démocratiser. Il y a des entreprises comme l'Officiel du déménagement ou Fred Bay qui se sont spécialisées. Moi, je dis, bah voilà, vous avez tout. Vous avez toutes les infos.
Voilà,
il y a
ouais, c'est clair. Hein.
Et elle m'a donné envie de déménager.
C'est ce que j'allais dire. Ça me donne envie de déménager. Mais juste pour ça.
Merci
ça
beaucoup.
Ça déménage.
Merci Perrine pour tous ces conseils vertueux pour l'environnement. Alors, il y a un autre secteur hein, dans lequel on peut certainement faire mieux. C'est dans le secteur sportif. Heureusement pour ça, il y a Hakim qui rejoint la bande aujourd'hui. Alors, c'est la bonne résolution de la rentrée pour beaucoup d'entre nous, Hakim, faire du sport. Déjà, première question, est-ce que vous, dans votre salle de gym, vous voyez une recrudescence en septembre ?
Ouh là là, énorme, énorme. De toute façon, je l'ai bien vu.
Ils sont que là, d'ailleurs, qu'en septembre.
Exactement. Non, c'est, les motivations sont prises en septembre. Le choix du budget aussi. Est-ce que je vais dispatcher mon budget entre ma salle de sport et un autre loisir ? En tout cas, en septembre, tout se décide.
Ça appelle grave, comme on dit. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre un coach privé ? Parce que, effectivement, je pense que c'est une bonne idée, la question est mal posée, mais on a tellement peur que ça nous coûte un bras.
Alors, je vais répondre à cette question, mais avant ça, je vais essayer de vous motiver quand même à choisir un coach. Bien évidemment, il y a des avantages. Le premier, un gain de temps énorme. Lorsque vous allez à votre salle de sport, souvent, vous jonglez de machine en machine, vous ne savez pas quoi faire, vous allez sur le tapis, ensuite sur une presse, vous ne savez même pas à quoi sert cette machine et pourtant le coach, si jamais vous l'aviez pris, vous aurait dit exactement quoi faire, comment faire, dans quel temps et en une heure top chrono, vous auriez fait votre séance focus en plus sur vos objectifs. Et c'est vraiment ça l'avantage d'avoir un coach, c'est qu'il va cibler votre travail sur vos objectifs, points forts, points faibles.
Plus de cardio, plus de renforcement musculaire. Est-ce que je veux maigrir ? Est-ce que je veux prendre de la masse ? C'est
exactement. Ça ? Exactement. Vous faites un bilan avec votre coach. Vous lui dites à peu près tout sur votre vie, que ce soit votre hygiène de vie sportive, alimentaire ou même de récupération.
Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, Hakim, c'est que même si on ne prend pas un coach privé à la maison, là, ça, je pense que ça coûte un bras quand même, mais si il faut quand même, quand on commence une activité physique dans une salle, en prendre pour le premier jour au moins.
Exactement. L'idée, c'est justement ce que j'allais vous proposer. Si vous n'avez pas le budget, on parlera du budget à la fin, pour avoir un coach sur un suivi personnalisé sur le long terme, il est quand même judicieux de prendre un premier créneau avec un coach, faire un bilan avec lui et ensuite il vous drivera sur ce qu'il faut faire et pas faire pour les prochaines séances.
Bon alors comment je choisis justement ce coach ?
Bah sur le physique, Mélanie.
Et justement, jamais sur le physique, non, bien évidemment.
Bah, s'il est tout gras et voyez, pas. Alors, un coach musclé, quoi,
oui,
c'est la base.
Mais après, il peut avoir des compétences insoupçonnées. Ah. Et bien évidemment, chaque coach aura sa typologie d'activité. Mais avant tout, il doit être certifié. C'est important. Un coach ne doit pas débarquer de nulle part. Et c'est important de lui poser la question. En tout cas, il doit être certifié.
Mais oui, Perrine, une question ?
C'est quoi une certification ?
Alors,
de coach ?
Il y a aujourd'hui, le monde de la certification ou du diplôme est encore assez vaste, entre guillemets, mais il y a un basique. C'est-à-dire que votre coach doit être diplômé d'État, du moins s'il veut exercer dans une structure à proprement parler, et même à domicile normalement. Ensuite, il existe plusieurs certifications, des CQP, certifications de qualification professionnelle. Aujourd'hui,
on vérifie qu'il a un diplôme.
Exactement,
quoi, hein,
c'est ça, le monde du coaching évolue. Mais
dans les salles, il me semble, Hakim, que dans certaines, ils affichent les diplômes des coachs.
Oui, exactement. Dans certaines salles, ils affichent fièrement, d'ailleurs, soit les diplômes des coachs, soit les qualifications qu'ils ont. Parce que parfois, un coach sera spécialisé en boxe, l'autre en yoga. Et ça permet de savoir qui est
bon
dans
quoi. Vous, ça doit être plus boxe que yoga, non ? J'imagine, je sais pas.
Un peu plus boxe que yoga, exactement. Même si j'essaie de m'y mettre au yoga. Mais j'ai envie de vous dire, le vrai point sur lequel vous devez être porté pour choisir son coach, c'est le feeling. Si vous faites votre première séance avec lui ou elle et que ça passe pas, que vous sentez qu'il n'y a pas l'alchimie qui s'est créée, alors laissez le temps au temps.
Il y en a, ils sont trop dirigistes, il y en a, ils sont vraiment vénères.
Vous en avez testé, vous, j'ai l'impression, quelques-uns.
Moi, j'en ai testé quelques-uns, il y en a, ils aiment bien faire souffrir un peu.
Bah, chacun a ses méthodes, aucune n'est mauvaise, je pense. L'idée, c'est surtout d'atteindre ses objectifs. Mais disons que vous venez quand même pour passer un bon moment, pour que la personne vous mette en confiance. Et c'est important d'avoir ce bon rapport parce que il est coach sportif, mais vous allez voir, si vous faites un suivi personnalisé, il est aussi coach de vie.
Et il va vous donner des tips.
Il va nous parler de l'alimentation,
exactement.
Il va nous parler de l'heure où on se couche et tout.
Exactement, de la récupération, de l'alimentation. Et si vous ne voulez pas vous sentir un petit peu comme... un côté intrusif, vaut mieux se sentir à l'aise avec la personne.
Bon, point très très important quand même, on peut pas ne pas en parler, ça coûte combien ? On s'imagine toujours qu'un coach perso, c'est hyper cher, quoi.
Alors, je vais relativiser tout de suite. Déjà, ouais. Il faut se poser la question du lieu géographique. Un coach sur Paris ne coûtera pas aussi cher, ou du moins ne sera pas le même prix qu'un coach dans une autre région de France. C'est important puisque le marché évolue aussi en fonction de la ville dans laquelle vous êtes. Vous avez aussi votre lieu d'entraînement. Vous ne payerez pas le même prix si vous êtes à domicile, en salle de sport, ou s'il vient sur vos lieux de travail. Matériel, le déplacement, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a bien évidemment le temps d'entraînement. Si vous avez un coach qui fait un footing avec vous parce que vous préparez par exemple une course et qui court pendant 2 heures, il est entre guillemets réquisitionné pendant 2 heures et non 40 minutes ou 1 heure. Il y a l'expérience du coach. Si vous avez un coach expérimenté et qui du coup fera parler son expérience sur ses coachings, ça se paye naturellement.
Donc,
j'y viens, roulement de tambour.
Combien
il faut compter entre 40 et 80 euros par heure. Malheureusement.
Elle essaie de gratter tout le temps.
Ce ne sont pas des prix fixes. Vous pouvez trouver des coachs à 20 euros dans des salles de fitness entre guillemets plus classiques. Et la chose très importante, c'est qu'un coach à domicile est considéré comme un service à la personne.
Oui,
donc vous pouvez faire exactement.
Et réduction sur les impôts.
Et oui, 50%.
On n'y pense pas à ça.
Et oui, venez pas me voir, je ne le propose pas.
Bon, mais ça va, écoutez, entre 20 et 80 euros, ça se. Et on peut éventuellement même faire ça quelques temps et après s'entraîner tout seul, en fait.
C'est vraiment le conseil que je donne pour entre guillemets, les petits budgets. Faites-vous lancer par votre coach. Et ensuite, il vous drivera sur le reste.
Allez, merci beaucoup, Hakim. C'est très clair. Nous, on n'en a pas besoin, de toute façon, de prendre un coach avec Julia, puisque
vous êtes
rien qu'en vous écoutant, vous et Anouk
Taï,
chaque semaine, on se muscle bien. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. On sera de retour à 11h demain, Julia, sur Europe 1. On parlera de quoi demain ?
Alors, vous le savez, Mélanie, ici, on n'est pas du genre à croire aux contes de fées, mais on a décidé de se pencher sur un pouvoir presque magique, celui de l'amour. Une relation peut-elle nous métamorphoser, nous donner des ailes, nous rendre meilleurs ? Jusqu'où peut-on changer par amour? On va se poser toutes ces questions dans Bienfait pour vous.
Voilà, mais juste avant et tout de suite, place à l'info sur Europe 1 avec vous, Romain Desarbres, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Qu'est-ce qu'il y a au programme d'Europe Midi?
Eh ben, on va aller évidemment au Royaume-Uni, on va aller notamment à Londres. Charles III vient de prononcer un discours au Parlement. Je sens le poids de l'histoire, a dit le nouveau roi d'Angleterre. Voilà, et puis on sera également avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui observe en tant que directrice de point de vue ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la Manche. Voilà l'une des informations qu'on va traiter, mais il y en aura beaucoup d'autres également.
Et on sera bien sûr à l'écoute. Merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.